first sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport, mardi 7 octobre. Pas mal de choses qui nous attendent une fois de plus au programme et une table bien chargée autour de moi. Tous les micros sont pris avec, dans un premier temps, celui qui revient d'Angleterre, c'est Paulin. Salut Paulin.
Salut Faustin, bonsoir à tous. Très heureux de revenir après mon absence justifiée, si je puis dire, mardi dernier, mais heureux d'être là.
Et voilà, tu nous parleras évidemment des matchs que tu as pu voir et du reste de la journée de Première Ligue. Comme à ton habitude, à ses côtés, toujours bien habillé avec cette belle cravate, c'est Mathéo. Salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Moi ça va très bien aussi. Je suis content de voir Paulin revenir, t'as pris des couleurs.
C'est bien le pays en plus là-bas. Vu la tempête en plus que j'ai mangé à Manchester. Enfin bon, ça on en parlera après.
Mais ça va sinon Mathéo?
Mais tout va bien. J'ai passé un week-end de sport horrible avec ce but toulousain à la dernière minute. Donc forcément, ça m'a pas fait plaisir, mais sinon non tout va bien.
Ouais. Y a peut-être eu le premier fut de chambre de ton côté?
Non, parce que j'ai appris en fait que sur la Xbox il faut le gold maintenant.
Oui.
Et oui. Terrible. Donc du coup je peux pas faire de fut de chambre.
Ça va faire du clash d'équipe. Dommage. À ma gauche c'est Paul. Salut Paul.
Salut. Très content d'être là pour cette émission et puis encore une bonne semaine qu'on a eue pour le côté foot et puis même un bon petit week-end de sport avec le vélo.
Et voilà, on en reparlera évidemment. Et enfin, un nouveau qui vient ce soir, c'est Robin, camarade de classe de Paul et de Mathéo. Salut Robin.
Bonsoir à tous, bonsoir Faustin. Très heureux d'être là pour ma première émission. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Et voilà, on va passer un bon temps autour du sport.
Exactement, avec une petite spécialisation autour du football. Mais tu t'intéresses évidemment à tous les sports. Eh ben, on va commencer sans plus tarder avec les actualités locales et le basketball. On démarre assez mal avec le AB. Défaite 80-71 à Rennes. Début de saison vraiment compliqué pour les Angevins qui n'ont qu'une victoire lors des 4 premiers matchs. Une fois de plus, l'entame de match a été très compliquée, avec dans un premier temps 25 points encaissés, dont un run 15-0 en l'espace de 4 minutes, qui a directement plongé les joueurs de John Daly dans la détresse. Un écart qui ne sera pas remonté de toute la rencontre. Au final, ça fait 81 points encaissés. C'est une fois de plus bien trop pour gagner un match avec de la dureté. Prochain match vendredi contre Fougères. Pour l'UFAB, changement d'ambiance. Grosse victoire pour elle pour cette deuxième journée de championnat. Elle l'emporte 62-60 contre l'ASVEL pour le premier match à Jambouin de la saison. Elles ont su faire la différence dans le deuxième quart-temps en prenant 15 points d'avance à la mi-temps, mais se sont quand même fait peur dans le dernier en voyant les Lyonnaises revenir fortement. On peut dire merci à Oumou Diarisso qui signe son premier double-double de la saison avec 12 points et 13 rebonds. Prochain match demain à 20h contre l'Estudiantes Madrid en Eurocup. Elles vont pouvoir relancer leur saison européenne en espérant évidemment que ça se passe bien. Du côté de Cholet maintenant, ils remportent également leur second match de la saison, 92-81 contre le promu Boulazac. Ce match a permis de faire tourner un peu l'effectif et notamment laisser 15 minutes de temps de jeu au jeune Aaron Towo-Nanti qui a pu inscrire ses 8 premiers points dans l'élite à l'âge de 16 ans seulement. Il a ensuite fait son premier clapping avec les pros. Et la ceinture de ce match revient à Chibuzo Agbo ce soir avec ses 15 points et 3 rebonds en seulement 16 minutes. Paulin, j'imagine que Aaron Towo-Nanti, c'est un nom qui te parle. Qu'est-ce que tu en penses de ce jeune talent?
Pas mal, mais surtout c'est assez impressionnant, hein, comme tu l'as dit, il a que 16 ans, il démarre ça y est sa carrière en pro avec CB, déjà 8 points, puis c'est surtout ce qui est assez flagrant je trouve, c'est la confiance qu'on a l'impression qu'il a en lui. Le gars il a 16 ans, il débarque chez les pros, rien à faire, il a mis 8 points, tu l'as dit, 2-3 points, il prend ses shoots comme ça, enfin pas de pression pour lui, donc je pense que là on a vraiment un futur joyau et puis potentiellement aussi un très bon joueur à venir dans l'équipe de France je pense que vraiment lui il a du potentiel, c'est assez incroyable. Et déjà s'il y a 16 ans il commence à faire de belles performances, je pense que il a un avenir plutôt radieux.
Tout à fait, ouais. Surtout ce qui est impressionnant, moi je trouve, c'est son gabarit. On voit, voilà, le nouveau talent français, surtout Victor Wembanyama, qui est un géant. Anto Blonti, lui, c'est un nain comparé à Victor Wembanyama.
Il est petit, ouais.
J'ai pas sa taille exacte, mais je pense qu'il est plus petit que moi, hein.
Je pense qu'il doit faire 1m70, ouais, par là, ouais. Je pense qu'il fait à peu près ma taille, mais.
Pour jouer au basket, c'est assez compliqué.
Ouais, c'est sûr.
Et pourtant, il s'en sort très bien. À voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Nouvelle preuve que Cholet est une école vachement formatrice. Au niveau du basket, on passe maintenant à la patinoire des Ducs. 3 matchs ont été joués depuis la dernière émission et c'est 3 victoires pour eux. La première contre Amiens, 4-3. Ils ont ensuite enchaîné 4-2 contre Anglet et enfin 3-1 à Cergy. Seule équipe toujours invaincue en Ligue Magnus, les Ducs sont logiquement premiers avant de se déplacer à Gap vendredi. Maintenant le score rugby, très grosse victoire pour les Scoïstes lors de cette troisième journée de Fédéral 3, 71-10 contre Chambly. Avant de rejouer, c'est dans 2 semaines, ce sera le 19 octobre. Dernière actualité locale, c'est le SCO, où c'est vachement moins bien là. Lourde défaite, 5-0 à Strasbourg. Un Hervé Goffi qui, heureusement, est toujours en forme. Mais on peut avoir nos premières inquiétudes, j'ai envie de dire, vis-à-vis du SCO, qui n'a pas proposé grand-chose dans le jeu ce week-end. N'est-ce pas, Mathéo?
Ouais, le SCO était totalement dépassé de A à Z, hein. Comme on dit toujours dans cette émission, la principale force du SCO, bien sûr, c'est la défense, mais c'est aussi, ouais, ce milieu de terrain, ce tandem, on en parle tout le temps, hein. Forcément, Beldim Belkebla qui a pas du tout fonctionné, qui a carrément obligé Abdelli aussi à redescendre plus bas sur le terrain, donc ça a été quelque chose d'assez négatif. Sur ce match, le SCO a pas du tout existé, hein, comme tu l'as dit, presque aucun temps fort, une seule occasion, je crois, une tête de Prosper Peter, donc vraiment on est sur un match à oublier pour le SCO. Alors c'est intéressant quand même parce que le SCO fait un début de saison assez supérieur malgré la position au classement par rapport à ce qu'on attendait. Ouais. Donc forcément là c'est un dur retour à la réalité aussi de ce qui peut arriver dans cette Ligue 1. Enfin c'est une équipe aussi ultra offensive, hein, cette équipe de Strasbourg, c'est peut-être l'équipe piège et l'équipe qui pouvait mettre ce score au SCO. Donc beaucoup d'apprentissages qui vont être faits. Moi j'en tire quand même un peu de positif si on peut en tirer au niveau d'Abdelli quand même, que j'ai trouvé vachement en forme. Il a pas eu son niveau habituel forcément parce que l'expression qu'il avait était quand même vachement amoindrie, mais il a quand même eu des choses intéressantes et surtout dans l'envie, on sent qu'on retrouve un peu l'Abdelli de la première partie de saison dernière plutôt que de la deuxième, donc forcément ouais, c'est intéressant.
Ouais, c'est un peu le seul point positif. Est-ce que toi, Robin, t'as suivi un peu cette saison du SCO depuis le début de la saison et qu'est-ce que tu penses là de ce match, de cette déroute à Strasbourg?
Ouais, bah un petit peu déçu du jeu proposé,
ouais,
ce week-end. On avait eu des belles oppositions, notamment face au Gros Cador. Et ici, bon, on savait que ça allait être compliqué face à cette écurie européenne. Mais en prendre 5, quand même, c'est compliqué. Heureusement, comme l'a dit Mathéo, et toi aussi, qu'il y avait eu un bon Hervé Coffi qui a pu sauver quelques occasions. Mais bon, la déroute en seconde période, c'est sévère, mais bon... Faudra se reprendre. La position au classement commence à être compliquée, donc il va falloir se reprendre sur les matchs à venir. Ouais.
Ouais, c'est le SCO qui est encore relégable du coup avant la trêve internationale, dont on ne parlera pas dans cette émission. On pourrait en parler peut-être après la pause musicale, faire un peu la liste de Didier Deschamps. Toi, Paul, pareil, qu'est-ce que tu penses un peu de cette rencontre? Est-ce que tu arrives, comme Mathéo, à tirer du positif ou alors tu vois que du négatif?
Bah, il y a beaucoup de négatifs, on peut dire, parce que malheureusement la défense n'a pas été au niveau comme on l'espère depuis quelques semaines, parce que ce qui faisait beaucoup notre force, c'était cette solidité défensive où, malgré certains problèmes qu'on avait, on arrivait à les régler. Et puis surtout, Kofi était d'une importance cruciale. Malheureusement, ce match-là, même s'il a été très important, il a fait de grosses parades. J'ai vu, il a fait quand même 7 parades. Donc c'est quand même quelque chose.
Ouais, il était en forme.
Il était encore en forme. Mais malheureusement, il y avait des seconds ballons qui n'ont pas été bien gérés par la défense. Donc c'est un peu dommage. Mais il faut garder quand même du positif. Comme le dit Mathéo, Abdelli revient bien. C'est son 3e match de suite. Donc je pense que plus les matchs vont s'enchaîner, plus il va être meilleur. Et faut espérer qu'on retrouve l'Abdelli de la saison dernière qui va porter un peu plus cette équipe.
Ouais, moi j'allais vous demander, est-ce que Hervé Coffi est le meilleur joueur de cette équipe au final?
Il n'y a pas débat, je pense.
Ouais.
Je pense qu'on peut dire oui, le joueur le plus décisif sur ce début de saison, ça c'est assez évident. Après, en soi, une équipe c'est un collectif, surtout pour le SCO. Donc, Mais oui, bien sûr qu'il est important. On l'a bien vu encore une fois ce week-end. S'il est pas là, tu prends beaucoup plus de buts aussi parce qu'il y a des automatismes qui manquent en défense centrale, aussi dû au retour de Bumla et puis la commotion cérébrale de Camara. Donc forcément, c'est un des piliers de cette équipe. Il s'est installé très rapidement, mais il y a pas que lui.
Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Il remplace quand même magnifiquement bien Yaya Fofana, qui était lui aussi d'une importance capitale. Affaire à suivre pour le SCO, en espérant que ça se passe mieux. Ils recevront donc, ce sera le 18 octobre, Monaco à Jean-Bouin, à Raymond Coppa, pardon, je suis un ancien encore, mais on verra comment ça se passera, en espérant que ça se passe mieux du coup que contre Strasbourg. On va enchaîner avec le reste de la Ligue 1, Mathéo.
Oui, bah oui, puisque la saison se poursuit en Ligue 1, 7e journée ce week-end avec des affiches et des rebondissements. Vendredi, le Paris FC s'est imposé à domicile face à Lorient 2-0. Des Parisiens qui semblent enfin avoir pu trouver leur rythme de croisière et s'installent donc à la 8e place du classement avec un Kebal encore une fois décisif. Samedi, c'est l'OM qui s'est imposé contre Metz 3-0. Brest et Nantes se sont partagés les points du nul 0-0. Lens est allé encore une fois chercher des points à 10 hein, avec cette victoire 2-1 à l'Abbé Deschamps contre Auxerre et avec un but de Sima à la toute dernière seconde du match. Il n'est pas le seul crack hein, déchu du championnat anglais à avoir été décisif puisque Hudson-Edouard a lui aussi marqué. L'OL a fait face à la dure réalité du football face à Toulouse. Dominateurs, les Lyonnais se sont fait avoir par des Toulousains opportunistes qui ont su se jouer des erreurs lyonnaises pour aller chercher cette victoire 2-1 lors de la dernière action du match. Dimanche, Rennes et Le Havre se sont neutralisés de partout. Décidément, ces Rennais ont bien du mal face aux équipes du bas de tableau. Monaco et Nice se sont eux aussi partagés les points du nul grâce à un doublé d'Ansu Fati et de Sofiane Diop. Strasbourg n'a fait qu'une bouchée du SCO, hein, logiquement 5-0. Le LOSC a été chercher le point du nul face au PSG un partout. Et ce, malgré le coup franc magnifique hein, de Nuno Mendes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que tout le monde autour de cette table l'a vu, il est magnifique.
Sacré
et le
Nuno Mendes.
Très très fort. Hein. On y reviendra tout à l'heure en parlant du match contre le Barça, t'inquiète pas, Faustin.
C'est prévu.
Le PSG, donc, qui n'en a toujours pas fini aussi avec le clan Mbappé, hein, puisque c'est Ethan, le petit frère de Kylian, qui égalise pour le LOSC, valeureux et récompensé. Au classement, ça se tient toujours dans un mouchoir de poche, hein, dans le haut du tableau. Le PSG est toujours leader avec un petit point d'avance devant Marseille, Strasbourg et Lyon. Deux points derrière, c'est Lens et Monaco qui sont donc en embuscade. Et puis du côté du bas du classement, peu de changements par rapport à la semaine dernière. Metz pointe toujours à la dernière position avec deux points. Seule équipe du championnat ne toujours pas avoir gagné. Et puis le SCO les devance grâce à la victoire face au Paris FC lors de la première journée. Et c'est désormais Auxerre qui occupe la 16e place et qui remplace des Nantais qui sont devant grâce à la différence de but. Moi, j'ai une question à vous poser quand même parce que forcément, là, on a déjà fait cette journée, on a pu voir un peu comment sont rodées les équipes. Pour vous, c'est quoi peut-être la surprise ou en tout cas les bonnes équipes de ce début de saison et qu'est-ce qui, pour vous, pourrait continuer comme ça et s'installer dans le haut du tableau durablement ?
Forcément, Strasbourg. Strasbourg par rapport au début de saison qu'ils sont en train de faire, puis il y avait des problèmes en plus extra-sportifs qui n'ont pas empêché les Strasbourgeois de continuer sur leur lancée, donc je pense que déjà par rapport à ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est plus que positif. Et moi j'ai envie de dire aussi Lens qui me surprend pas mal sur ce début de saison, rien qu'avec les deux derniers matchs en fait, le nul qu'ils ont réussi à tenir avec le carton rouge dès la première minute de Grady, c'est déjà quand même une très belle performance avec un grand Flotovin. D'ailleurs, Flotovin, comme tu le dis, on en parlera peut-être après la pause musicale. Et puis là, pareil, encore réussir à aller chercher cette victoire avec une tête de Sima, pareil, réduite à 10. Je trouve que c'est une belle force collective, une belle force de caractère. Et les hommes de Pierre Sage me font forte impression, on va dire, sur ce début de saison.
On a d'autres équipes aussi qui font forte impression. C'est forcément le LOSC hein, qui fonctionne bien aussi, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1. Toi, Faustin, c'est quoi ton regard sur cette équipe du LOSC qui justement fait un meilleur début de saison que ce qu'on a pu en dire lors de nos prévisions initiales.
Pendant nos prévisions, on a été assez méchants. Je crois que j'étais le seul à les avoir mis un peu plus haut que vous de mémoire. Mais
Tu les avais peut-être mis 7e, je crois.
Je les avais mis européens, il me semble quand même. Mais ouais. Du coup, c'est vrai qu'ils sont au-dessus de ce qu'on attendait avec Giroud qui a été très bon même dans ce début de saison, qui marque plus trop lors des dernières journées. Mais ouais, c'était ça. On avait été assez critiques sur le mercato qui était assez étrange. Mais au final, ça fonctionne bien et on peut attendre même encore mieux. Des Lillois 7e, c'est bien, mais je pense que même eux, ils espèrent finir plus haut et aller chercher l'Europe quand même.
Bien sûr. Puis c'est le temps qu'aussi que l'équipe se rôde. Hein,
exactement.
le temps que ça se mette en place. J'aimerais juste aborder un dernier sujet. Alors c'est un sujet non pas polémique, mais quand même qui fait parler, parce que forcément Ansu Fati réalise un début de saison assez impressionnant. Il est décisif toutes les 47 minutes, je crois.
À peu près, ouais.
Ce qui est assez énorme, ce qui est un chiffre vachement imposant. Pourtant, on a des pénalties, mais quand même, il réalise des bonnes prestations. C'est quoi votre regard à vous sur justement ce début de saison d'Ansu Fati?
Bah en vrai, il revient bien parce que bah il y a eu le début de saison, il était blessé un peu, il y a eu le temps qu'il se remette un peu, et là on voit quand même que bah il est décisif quasiment à tous les matchs, si je me trompe pas, ou même s'il y a des pénaux comme tu dis, mais enfin faut les transformer puisque bah c'est quand même un 1v1 contre le gardien. Et en vrai, ça montre enfin que bah peut-être que les blessures l'ont épargné un peu ces derniers temps, et qu'enfin il peut jouer et qu'il peut nous prouver bah que c'est un crack, et que c'est pas pour rien que bah pendant des années on a cru que c'était le prochain Messi ou un grand joueur. Donc en vrai, c'est bien qu'il revienne comme ça, et faut espérer que Pogba revienne aussi de cette manière-là.
Ce serait très bien, Pogba qui pourrait débuter contre le SCO, enfin ouais. En tout cas rentrer en jeu, pas débuter, je pense que ça sera quand même assez tôt, mais contre le SCO, du coup je regarde quand même mes deux Barcelonais. C'est quoi votre regard, vous, sur cette petite renaissance pour l'instant, parce qu'on peut pas parler de vraie renaissance avec aussi peu de matchs dans les jambes, mais c'est quoi votre regard quand même sur cette petite renaissance d'Ansu Fati? Ça vous plaît? Ça vous fait du bien de voir votre ancien crack?
Bah, moi, forcément, ça nous fait du bien, surtout quand on a pu voir évoluer Ansu Fati sous les couleurs du FC Barcelone. Ce qui est positif et ce dont on a besoin, parce qu'on rappelle qu'il est quand même prêté par le Barça. Donc, s'il réalise la saison, enfin dans la continuité de son début de saison, il reviendra au Barça.
Et une option d'achat, je crois, non?
Je sais pas. S'il y a une option d'achat et qu'elle est assez, enfin qu'elle est peu élevée et qui continue sur cette saison-là, malheureusement pour le Barça, du coup Monaco en prendra soin et la déclenchera. Après, on l'a dit, c'est des pénalties. Moi, j'attends d'en voir plus, et c'est surtout j'espère juste qu'il va pas retomber dans des blessures. Il faut, c'est un joueur aussi qui a besoin de confiance. On a vu que quand il revenait sur le terrain, et notamment aussi à son passage en Angleterre avec Brighton, pas du tout été concluant. Il a pas réussi à montrer le joueur qu'il était en Angleterre, et je pense que c'est aussi cette confiance dont on le répète, pour les footballeurs c'est important. Et s'il le trouve là, justement, en plus il a des responsabilités parce que c'est lui le tireur de penalty à Monaco, c'est déjà des premières responsabilités. Il vient d'arriver dans le collectif, il y a des joueurs comme Mika Biéret qui est quand même un buteur de renom, qui a fait une très bonne saison l'année dernière. C'est pas lui qui prend les penalties, donc moi je pense que pour lui la confiance est importante, et c'est important pour lui, et si ça peut continuer, on va dire, dans ce sens-là, c'est positif. Nous, forcément, Faustin, ça nous fait plaisir.
C'est clair, 11 millions d'euros, du coup, je viens de chercher l'option d'achat sur Ansu Fati.
C'est pas élevé, hein, quand même.
Ouais, non, ouais, c'est pas élevé du tout. Bon, le gars finit à 20 buts ou plus. Bon, c'est à Monaco.
Il est déjà à 5 buts là dans la saison, donc oui. Ça part pas mal. 11 millions d'euros, ça risque de sauter à la fin de la saison s'il continue comme ça, si sa santé reste. Mais ouais, c'est clair, ça fait plaisir de voir un ancien Blaugrana briller sous des couleurs maintenant blanche et rouge. Il garde toujours un peu de rouge, mais ouais, ça fait plaisir. J'attends de voir un peu plus parce que cette match n'est pas assez quand même, je pense, pour Ansu Fati, surtout sur sa santé qui me fait peur. Voilà, les risques de rechute sont quand même importants, je pense, et il va falloir être patient pour voir pour affirmer ce retour en force.
On va voir s'il pourra faire une saison pleine. En tout cas, Monaco a pas que Ansu Fati comme positif. Hein. On l'a vu en Ligue des Champions cette semaine, et je te laisse peut-être nous en parler, Paul.
Oui, car mardi dernier, l'Olympique de Marseille recevait l'Ajax Amsterdam à l'Orange Vélodrome. Devant 66 000 supporters, les Olympiens affrontaient une affiche européenne de prestige dans leur antre. Dès la sixième minute, la recrue la plus chère de l'histoire du club, Igor Paixão, ouvre le score grâce à une superbe ouverture de Naïef Aguerd, légèrement déviée par le capitaine du soir, Pierre-Emerick Aubameyang. Quelques minutes plus tard, Alex Vermeulen récupère le ballon très haut avant de le transmettre au premier buteur, qui double la mise d'une frappe croisée à terre, signant ainsi son premier doublé sous les couleurs bleu et blanche. À la 25e minute, Mason Greenwood enfonce le clou en inscrivant le troisième but sur un service d'Aubameyang. Après la pause, sur une contre-attaque rapide côté gauche, Paixão transmet un magnifique ballon à son capitaine, qui marque le quatrième but, clôturant ainsi une rencontre parfaite pour le club phocéen. Durant cette soirée à Madrid, l'Atlético n'a laissé aucune chance à l'Eintracht Francfort, s'impose 5-1 dans un match à sens unique où les Colchoneros ont affiché leur puissance offensive. Le voisin, Real de Madrid, a encore fait plus fort, à un succès 5-0 sur la pelouse du Kairat Almaty avec un Mbappé auteur d'un triplé. Dans le même esprit, le Bayern Munich a déroulé en déplacement, corrigeant Paphos 5-1. L'Inter Milan s'est montré souverain à domicile face au Sevilla Prague 3-0 grâce à un Lautaro Martinez en grande forme. Tandis que l'Atalanta a fait preuve de caractère pour renverser Bruges 2-1 dans une fin de match électrique portée par Samardji et Pazalic. à Londres, Chelsea a décroché une victoire courte mais précieuse face à Benfica, 1-0. Et en Turquie, l'exploit est venu de Galatasaray, tombeur de Liverpool 1-0 dans une ambiance bouillante avec un pénalty de Victor Osimhen. De son côté, Tottenham a souffert en Norvège, mais a arraché un nul 2-2 sur le terrain du piège Bodø/Glimt. Le lendemain avait lieu l'un des matchs les plus attendus de cette phase de groupe. Le Paris Saint-Germain se déplaçait au stade Montjuïc pour affronter le FC Barcelone. Privé de plusieurs cadres, les Parisiens ont dû composer sans le ballon d'or Ousmane Dembélé, la pépite Désiré Doué, l'ailier géorgien Gvisha Kvaratskhelia, ainsi que João Neves et le capitaine Marquinhos. Du côté du Barça, l'équipe catalane devait se passer de son ailier gauche brésilien Rafinha et de son latéral gauche Alejandro Balde. Le match débute sur des chapeaux de roue avec une nette domination locale. Les Barcelonais ouvrent le score dès la 19e minute grâce à Ferran Torres, parfaitement servi par Marcus Rashford. Peu à peu, le PSG reprend le contrôle du jeu et impose sa supériorité sur le terrain. À la 39e minute, Mayulu, 18 ans, est titulaire en pointe, égalise après un raid tranchant de Nuno Mendes, relançant complètement la rencontre. En seconde période, les Parisiens continuent de dominer, mais peinent à trouver la faille. Il faudra attendre la 90e minute pour voir Gonçalo Ramos, parfaitement servi par Hakimi, offrir la victoire aux visiteurs. Malgré l'absence de nombreux cadres, le PSG parvient à venir à bout du Barça et rappelle à toute l'Europe qu'il reste un sérieux prétendant au doublé cette saison. Dans le même temps, Monaco recevait Manchester City à Louis II. Dès la 15e minute, Erling Haaland ouvre le score après une ouverture parfaite de Joshua Vardiol. Trois minutes plus tard, Jordan Tézé égalise une frappe à ras de terre à l'entrée de la surface, relançant complètement le match. On a pu croire que les Monégasques allaient prendre l'ascendant après cette égalisation, mais Haaland redonne l'avantage aux Citizens à la 44e minute en prenant un centre de Nico Orelle juste avant la mi-temps. Dans les toutes dernières minutes du match, les hommes du Rocher obtiennent un pénalty après une faute de Nico sur Eric Dier. Comme un vrai patron, l'ancien joueur du Bayern et de Tottenham se charge lui-même de le transformer, permettant aux Monégasques d'arracher un point précieux à domicile. Malgré ce nul, Monaco a eu beaucoup de mal face aux Citizens et évite de justesse une défaite qui aurait pu être lourde de conséquences pour la suite de la compétition. Ce mercredi soir, d'autres matchs ont lieu aussi. Karabag a parfaitement continué son début de campagne en dominant Copenhague 2-0 à domicile. L'Union Saint-Gilloise, en revanche, a été sévèrement dominée sur son terrain par Newcastle qui s'impose 4-0. Le Bayern Leverkusen a accueilli le PSV Eindhoven dans un duel serré qui s'est consolidé par un 1-1. Le Borussia Dortmund n'a laissé aucune chance à l'Athletic Bilbao, l'emportant 4-1. Naples, sur son terrain, a pris le dessus sur le Sporting Portugal avec un succès 2-1. La Juventus Turin n'a pu faire mieux qu'un match nul 2-2 face à Villarreal. Les Italiens peinent à gagner les matchs en ce début de campagne européenne. Et pour finir, Arsenal a montré son sérieux avec une victoire maîtrisée 2-0 contre Olympiakos, sans trembler. Enfin, nos clubs français n'avaient pas fini leur semaine européenne, car en Ligue Europa, Lyon accueille le RB Salzbourg au Groupama Stadium. Après un début de match animé où les Lyonnais se procuraient de nombreuses occasions, Martin Satriano ouvre le score à la suite d'un centre d'Adam Karabek consécutif à une mauvaise relance du gardien autrichien. Au retour des vestiaires, Ruben Kluivert, fils de Patrick Kluivert, double la mise pour les locaux sur un corner frappé par le Tchèque Karabek, double passeur ce soir-là. Les Lyonnais ont ensuite fait preuve de sérieux pour conserver leur avantage et s'imposer 2-0. Avec cette victoire, l'OL réalise un sans faute et compte désormais 6 points sur 6 sur cette phase de poule. Dans le même temps, l'OGC Nice se déplaçait en Turquie pour y affronter Fenerbahçe. Le match commence mal pour les Aiglons. Après quelques minutes de jeu, Kerem Artekoglu ouvre le score pour les locaux sur une contre-attaque. 22 minutes plus tard, le même Artekoglu s'offre un doublé et creuse l'écart. Les Niçois réagissent avant la pause grâce à Kevin Carlos sur penalty, mais plusieurs tentatives en seconde période ne parviennent pas à revenir au score. Nice s'incline 2-1 et laisse filer de nombreux de points précieux, confirmant un début de saison compliqué. De son côté, le LOSC affrontait l'AS Roma au Stadio Olimpico. Les Dogs frappent d'entrée grâce à Hakon Arnar Haraldsson, buteur dès la 6e minute. Dominés ensuite par les assauts romains, les Lillois s'en remettent à leur gardien Berker Hauser, auteur d'une prestation exceptionnelle, avec notamment 3 pénalties arrêtées qui avaient été 3 et les 3 avaient été retirés. Lille conserve le score et s'impose 1-0 avec 6 points en compteur. Les Nordistes se hissent à la 6e place du classement, juste derrière Lyon. En Ligue Europa Conférence, Strasbourg retrouvait la scène européenne 19 ans après avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Bratislava. Les Alsaciens démarrent fort et mènent 2-0 à la pause grâce à un but contre son camp de Yarjdan et une réalisation d'Abdoul Ouattara. En seconde période, les locaux réduisent l'écart avec Ibrahim, mais Strasbourg reste solide jusqu'au bout et s'impose 2-1. Un succès précieux pour le club alsacien qui lance idéalement son retour en Europe. Messieurs, j'aimerais bien revenir sur le match du Barça. Faustin, le petit prono 3-1, qu'en penses-tu de ce match?
Ah, il est pas passé pour le prono, hein, je crois que c'est clair et net.
C'était pas ton soir.
Non, c'était pas mon soir, là. Ouais, non. En effet, j'étais complètement déçu de voir mon Barça se faire écraser par un PSG pourtant tellement affaibli qu'on disait, on disait faible, hein, limite, voilà, qui perd, qui fait match nul contre Lille, en plus, dans la foulée, le week-end, et pourtant, tellement dominateur en seconde mi-temps. Lamine Yamal a été excellent, on va dire, dans les 20 premières minutes, où il nous a fait rêver, mais il s'est ensuite, il a été mis dans la poche de Nuno Mendes, hein, j'ai pas peur de le dire, et Nuno Mendes qui a lui été, vraiment incroyable, qui remporte l'homme du match avec sans contestation, avec ses percées là dans l'axe. Francky De Jong qui est obligé de faire une faute énorme avec un carton très orangé. Et ouais, après Mayulu en plus qui marque, ça fait encore plus mal. Mais j'étais déçu du Barça et agréablement surpris du PSG, hein, qui reste une équipe que j'aime beaucoup malgré l'adversité des deux clubs européens.
De toute façon, je pense que sans aucun doute, on peut dire qu'on a été déçu de la performance du Barça. Moi, déjà, je pensais ne pas voir le match parce que j'étais dans les rues de Liverpool. je me suis arrêté dans un bar et il a gentiment mis sur le grand écran le match du Barça face au PSG. Évidemment, du coup, j'ai regardé le match pour le plus grand désarroi de ma copine, du coup, qui s'est infligé aussi 90 minutes de football pour changer. Et ouais, les 20 premières minutes, il y a rien à dire. On est dans le match. La première fulgurance de Lamine Yamal qui arrive très tôt, ouais, avec sa roulette magnifique entre Vitinha et Nuno Mendes. Derrière, le but est magnifiquement bien construit, mais on a joué que 20 minutes et c'est la réalité des choses et c'est ce qui fait mal. On a joué 20 minutes. Derrière la première mi-temps, on a essayé de continuer à montrer des choses, notamment à travers Pedri qui a quand même été au-dessus du lot pour les Barcelonais. Mais par contre, la deuxième mi-temps, elle est tout simplement honteuse. Enfin, en tout cas, moi, je la qualifie comme ça pour les joueurs du Barça parce que face à cette équipe de Paris qui était vraiment beaucoup plus affaiblie que le Barça, certes, on n'avait pas Rafinha. Certes, il n'y a pas Fermín López, il n'y a pas Gavi, Baldé n'est pas là et revient de blessure petit à petit, mais ce n'est pas excusable de faire une telle prestation. Et c'est vrai que quand on suit le Barça, là, ils étaient assez méconnaissables dans ce qu'ils ont proposé et dans la façon d'avoir subi le jeu contre Paris en toute la deuxième période. Et le but encaissé, finalement, il vient saluer les efforts faits par Paris. Et il y avait le poteau de Kanginli, hein, c'était pas passé loin. La frappe de Kanginli juste avant, déjà là-dessus, si ça fait but, c'est aussi logique. Donc la défaite est méritée pour le Barça et la victoire elle est tout autant pour Paris. Mais c'est juste décevant. Et puis quand on voit la suite des événements ce week-end avec la gifle 4-1 face au FC Séville, s'il vous plaît, hein, on parle quand même d'une des pires équipes de la Liga la saison dernière. C'est compliqué là pour nous en ce moment.
Ouais, c'est clair. Moi, ce qui m'a déplu aussi, c'est la charnière centrale. Koubarsi, Eric Garcia, qui a pas été performante. Je l'ai vu sur la compo. On sait que en ce début de saison, avec le départ d'Inigo Martinez, c'est compliqué au centre. La charnière change quasiment à chaque match. Et à croire que Pau Koubarsi et Eric Garcia, c'est pas la bonne solution. Et on l'a vu ce soir. Ça me semblait plus solide ce qu'on avait contre Séville, mais finalement pas du tout.
Mais je pense que t'as raison. On se rend compte à quel point Inigo Martinez était important dans la défense du Barça, bien que on a bien vu hein, face à l'Inter que la défense du Barça c'était pas souvent exceptionnelle, mais il avait un peu cette qualité de patron, il était capable justement de garder sa ligne défensive au même endroit. Et quand t'es une équipe qui joue énormément sur le piège du hors-jeu, t'as besoin du coup de ce gars qui lead un peu le groupe. Et on l'a vu face à Séville qu'on a été complètement à côté de la plaque sur ce piège du hors-jeu et face à Paris, le but qu'on encaisse, on voit notre désorganisation défensive avec Hakimi qui fait la passe pour Gonçalo Ramos sur le deuxième but, il est complètement seul, il n'y a pas hors-jeu. Et à chaque fois, j'ai l'impression, et c'est ce qui est un peu frustrant, c'est que tu vois tout de suite les joueurs du Barça réclamant ce hors-jeu car ils sont presque sûrs d'eux, mais non, en fait, des fois on va l'encaisser, mais là en l'occurrence, l'encaisser à la 90e minute, ça fait mal.
Ouais, c'est clair. Moi, j'ai envie de dire même que le score aurait pu être plus sévère avec le poteau de Kanginli. Il y a Barcola qui loupe un contre un aussi. Et vu la domination énorme en deuxième mi-temps, on aurait pu s'en prendre deux, trois de plus et complètement sombrer et subir une humiliation. Déjà que là, on n'en est pas loin à Montjuïc. Voilà. Pour ce qui est du match du Barça, je ne sais pas si tu comptais nous lancer sur deux matchs européens, Paul.
Si quelqu'un a quelque chose à dire, j'avais pas trop de. Pas d'idée ce que vous allez en dire. Si quelqu'un a vu un match qui l'intéresse plus, je sais pas pour toi, Mathéo.
Bah, je peux forcément prendre le micro pendant une heure et parler de l'Olympique Lyonnais qui sort victorieux face à Salzbourg, mais je vais essayer de faire concis juste pour parler quand même alors très rapidement, parce qu'on en a quand même parlé la semaine dernière, mais du très bon début de saison de l'OL. Ça fonctionne très bien contre Salzbourg, et justement j'aimerais plus parler justement du mercato de Lyon qui a été fait quand même, et parler d'un homme forcément, Karabek, le Beckham de, attends, comment il avait appelé Willow, le Beckham de Bohème, je crois, un truc comme ça. Bon. Et c'est assez parlant. C'est un joueur qui a un pied très soyeux. C'est des joueurs élégants à voir jouer. Donc forcément, ça fait très plaisir. Et ce match de Lyon contre Salzbourg, il est dans la continuité du début de saison, avec une équipe qui a eu du mal les 15 premières minutes. L'OL a pas forcément été très performant, mais derrière a réussi à se remettre aussi dans le sens de la marche et faire ce qui était nécessaire, et l'OL aujourd'hui à 6 points en Ligue Europa, a battu quand même Salzbourg. Ça reste un gros nom, même si on sait que c'est moins performant comme un peu toutes les équipes Red Bull depuis 2-3 ans, mais ça reste des victoires à faire, ça reste des victoires que un autre club, l'OGC Nice, ne sait pas faire.
La petite clown français.
Mais en même temps, enfin, après ils ont eu un calendrier aussi qui fait que le début de saison mais bon, c'est pas une équipe qui nous enchante, cette équipe de l'OGC Nice.
Non, mais voilà, quand même des très bons résultats pour nos clubs en Europe. Et un autre club qui vient de commencer sa saison européenne, c'est Cholet. Le match commence à 20h30, déjà 2 minutes de jeu et 2-0 pour Badalone. Contre les Choletais, on suivra un peu cette rencontre tout au long de l'émission. On va passer à la pause musicale et on va s'écouter un son qui est sorti ce week-end en lien avec le GP Explorer dont on parlera juste après. C'est Un monde à l'autre de Gims, Lamano et SCH.
Faut pas que tu t'emmènes. Je te fais la spéciale à guérir au chameau. MOC, j'ai la vista à Chavi. Enfant les déco comme Philippe et James. Tout le monde est ouf. On fait les ouf. Revoilà, smoke la douce. Tire une taf et direct tu douce. Dans mon bras, 0 cahier, 0 tous. T'affronce pas trop dans ma tête, on est douce. Appelle-moi si tu veux en dire. Appelle-moi si tu veux en dire. Pessimiste comme optimiste, j'arrive en star comme Optimus Prime. Évidemment, j'remplis ce stade. Timing poigné de tennis, man. Chérie, sois mienne, obéis-moi. J'suis dans la route comme un GPU 100. J'frappe dans le tas comme Chapo Guzman. J'cherche une line comme Jesse Pinkman. Mange mis comme Hitman. Estepona, yo, I can. Ça fait vrum vrum comme à Culiacan. Gasolina, Portofino, Testa Rosa. Gasolina.
Voilà, c'était Un monde à l'autre de Gims, Lamano et SCH sur les antennes du 101.5 FM ou bien depuis le site www.radio-g.fr. On va revenir évidemment sur ce GP Explorer qui a eu lieu samedi et dimanche. On va surtout parler de la course principale qui a eu lieu dimanche, départ à 19h, avec remporté par Karchez, le youtubeur espagnol. En deuxième place, on a Catsup, la youtubeuse française, et Maxime Biaggi, le youtubeur français, en troisième position. Voilà, une belle course qui a rassemblé beaucoup de gens sur le circuit Bugatti du Mans.
pour la troisième édition, la dernière. C'est quand même des belles émotions qu'on a pu ressentir. Est-ce que autour de la table, c'est un peu regardé et qu'est-ce que ça en a pensé rapidement?
Moi, j'ai regardé un peu. En vrai, c'était, je trouvais ça assez cool, tu vois, que comme tu dis, il y a beaucoup d'émotions. Enfin, le public a été au rendez-vous, il y avait beaucoup de monde. Et puis même, pour avoir regardé un peu la fin, c'est quand même, tu vois, les coureurs qui étaient émus, qui étaient, enfin, de cette expérience. Voilà, enfin,
les pilotes,
excusez-moi, les pilotes étaient émus quand ils sortent de la F4. Et tu voyais quand même que ça a été éprouvant. Et puis même d'avoir travaillé pendant des mois sur ça. Enfin, ça devait être quelque chose et tout. Et puis, en fait, c'est intéressant. Enfin, ça permet de changer un peu parce que les streamers, on les voit tous un peu comme des personnes qui restent chez eux, et là de proposer un événement aussi important, c'est assez cool, je trouve, pour quand même de proposer un peu ça, mettre en avant le sport automobile et de changer un peu.
Tout à fait, ouais. Et puis on a une belle course quand même pour ceux qui ont pu la voir, avec pas mal de rebondissements, des spins, notamment celui de Théodore dès le début de la course qu'il a envoyé dans le bac, qui dès le premier tour lui a fait finir sa course. On a eu SCH qui a eu une panne moteur, une casse moteur, ouais, dès le début, mais les mécanos qui ont été excellents, qui ont réussi à lui changer son moteur en cela, même pas une demi-heure. Mathéo, ouais, toi, qu'est-ce que t'as pensé un peu de cet événement?
Moi, je vais parler de la course plus que l'événement, parce que je suis pas le mec le plus positif dessus, mais on m'a forcé à le regarder. Donc le fait est que j'ai la course en tête, et c'est vrai que la course a été quand même assez mouvementée. Ouais. On a eu, en plus, ce qui est intéressant, c'est que concrètement, à certains sports automobiles, là pour le coup, la grille de départ a pas vraiment créé le classement final.
Non.
Alors, on sait qu'il y a quand même des mouvances quand on regarde la F1, la MotoGP, etc. Mais là, c'était quand même des assez grosses mouvances. Squeezie, je sais plus combien il reprend de place jusqu'à ce qu'il se fasse
il
bloquer.
Il fait
de
10 à 3e, il me semble.
Ouais, et après,
DNF limite.
Et après, Maxime Biaggi part 10e, je crois aussi. Ouais, donc il y a eu quand même pas mal de mouvements. Et puis à la fin, c'est pas un youtubeur français qui gagne. Donc forcément, quand on est un peu chauvin, c'est décevant. Mais sinon, c'est pas grave parce que c'est pas l'objectif de l'événement. Et donc ça fait plaisir quand même de voir ce genre de choses.
Mais voilà, en tout cas c'était la dernière édition malheureusement au circuit Bugatti du Mans. Les deux autres éditions c'était aussi très bien passé, avec le million de viewers qui avait été dépassé à chaque fois sur Twitch, record du monde pour la première édition, et le record a ensuite été battu, il n'a pas été rebattu cette année. Donc très bel événement. On va enchaîner directement avec le vélo et les championnats d'Europe qui sont déroulés ce week-end.
Oui, parce qu'il y a des courses qui marquent l'histoire, et celle des championnats d'Europe 2025 Andromardèche en font partie. Ce dimanche, le public français a assisté à un récital signé Tadej Pogacar, un homme qui semble aujourd'hui rouler dans une toute autre dimension. Tout s'est joué à 76 km de l'arrivée, dans la dernière ascension de Saint-Romain de l'Herps, où Pogacar a allumé la mèche. Remco Evenepoel, lui, a tenté de suivre, mais a peiné quelques kilomètres plus loin. Le Belge, qui avait donc déjà lâché prise devant le Slovène, a déroulé son effort seul, implacable, multipliant les ascensions avec la précision d'un métronome. Derrière lui, un groupe de chasse emmené par Evenepoel, Paul Sexas, Juan Ayuso et Christian Scaroni, donc qui a bien tenté de s'organiser en vain. Puis une fois la minute d'avance franchie, la poursuite s'est littéralement disloquée. Donc déjà champion du monde une semaine plus tôt au Rwanda, Pogacar s'offre un nouveau maillot distinctif, celui de champion d'Europe, et signe là son 9e grand succès de la saison. Donc Tour de France, Liège-Bastogne-Liège. Compliqué comme ville. Tour des Flandres, Strade Bianche, et donc le championnat d'Europe. Donc c'est une moisson assez inédite pour le coureur slovène, donc qui a 26 ans, devient le premier coureur de l'histoire à cumuler simultanément les maillots de champion du monde et d'Europe. Son style, donc, fait de longues chevauchées solitaires, 75 km cette fois, n'est plus un coup de folie, mais c'est une stratégie mûrement pensée, une méthode Pogacar redoutable et désormais presque infaillible. Mais derrière, le géant slovène, la France a trouvé forcément son nouveau visage. À 19 ans à peine, Paul Sexas a créé la surprise en décrochant la médaille de bronze, auteur d'une course pleine d'audace. Il a résisté à des champions aguerris comme donc Scaroni ou Ayuso pour offrir à la France son premier podium européen chez les élites depuis plusieurs années. Une semaine donc après sa 13e place aux Mondiaux, le jeune Lyonnais confirme son immense potentiel et sa montée en puissance. Et je vous le demande, où va s'arrêter Paul Sexas? Est-ce qu'on pourrait le voir sur le Tour de France prochainement, ou sur d'autres monuments pour le coup? Ça serait peut-être plus logique.
Moi, je vais dire sur le Tour de France, ça pourrait être pas mal, sans chercher forcément un maillot jaune qui serait trop prétentieux, mais quand même chercher à être le leader d'une équipe et à chercher des bonnes places au général. Sinon, ouais, sur des tours un peu plus, pas aussi gros que le Tour de France comme la Vuelta ou le Giro, où il pourrait avoir son coup à jouer si Pogacar tout simplement n'est pas dans la course et voir, ouais, enfin le voir faire un très bon classement et lancer sa carrière une fois de plus après ces championnats du monde où il fait 6e et ses championnats 13e peut-être
13e ouais.
13e ouais et ses championnats d'Europe donc 3e place qui est juste excellente. On peut le voir à mon avis cette saison exceller dans des tours majeurs, ouais.
On l'avait déjà vu de toute façon au Critérium du Dauphiné où il finit dans le top 10, justement il est pas si loin du haut du classement du Critérium, donc c'est quand même une montée express, ouais. dans le cyclisme professionnel, parce que si ma mémoire est bonne, ça fait un an à peu près qu'il est sacré champion du monde chrono junior. C'est à peu près là où nous on a appris à le connaître, et là justement il y a cette 3e place au championnat d'Europe, cette 16e si je dis pas de bêtises, ou 13e au championnat du monde, donc c'est quand même impressionnant. Moi Paulin, je te le demande aussi, mais concrètement sur quelle course on peut le voir maintenant? Est-ce que pour toi, Décathlon AG2R va tenter de le mettre sur des monuments en cette fin d'année?
Oui, c'est possible. Après, j'avais aussi lu des choses comme quoi, par exemple, un Tour de France dès l'année prochaine n'est pas forcément envisagé tout de suite. Après, ça peut encore changer, mais moi, je prends le pari. Son premier grand tour, ce sera lui qui remportera le maillot du meilleur jeune. Hein. Je pense que,
Après, de ce qu'on peut y avoir Isaac Del Toro pour le coup.
Oui, c'est vrai, qui est quand même un sacré coureur aussi et qui a montré des belles choses, notamment la course au championnat du monde où il a pas mal accompagné Pogacar pas mal de temps aussi. C'est vrai que en tout cas Paul Sexas, je sais que les plus aguerris, on va dire du cycliste, en parlent comme étant un joyau à polir et comme vraiment un futur espoir du cyclisme français qui pourrait nous redonner des émotions comme a pu le faire un Julien Alaphilippe assez récemment, donc je pense que on va le voir et il nous rapportera des titres sans aucun doute. Mais déjà, je trouve que cette 3e place au championnat d'Europe, elle est quand même belle. Moi, j'avais adoré sa réaction entre guillemets au contre la montre. Il avait réagi comme quoi il avait fait une performance atroce alors que c'était déjà pas si mal pour un coureur
dans le top 20,
de sa
trempe. C'est là où il fait 16 justement. Si
ouais, c'est ça. Et il était vraiment dégoûté de lui alors que c'était, en tout cas pour moi amateur de cycliste, voilà, je me disais ça reste, j'ai l'impression que c'est quand même une belle performance. Et
faire top 16 sur un championnat du monde, franchement, c'est quand même.
Et lui se disait vraiment être à côté de la plaque, ne pas avoir réalisé ce qu'il était en capacité de réaliser. Donc je pense qu'il a l'air d'avoir un mental d'acier et un mental de champion. Et je pense que oui, on le verra sur de très belles courses, nous rapporter de très belles récompenses.
On verra ça par la suite.
Évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite à
suivre.
Exactement, tout ce qu'on souhaite à Paul Sexas, de réussir dans le monde du cyclisme. Et pourquoi pas, ce sera lui qui décrochera Pogacar de ses succès tout simplement aberrants. On va ensuite aller de l'autre côté de l'Atlantique pour la première fois de la saison. Et on va commencer par un petit coup de gueule quand même contre LeBron James. Qui nous avait teasé ce qui pouvait être une annonce stratosphérique car on s'attendait à une vidéo du type The Decision lorsqu'il avait annoncé quitter Cleveland pour rejoindre Miami en 2010, qui était un séisme sur la planète basket. On s'attendait à une annonce de même envergure avec potentiellement l'annonce d'une retraite ou bien un retour totalement inattendu à Miami, et finalement non. Il s'agit simplement d'une publicité pour une marque de cognac. Absolument tout le monde souffle de voir un tel teaser pour n'avoir que ça au final, même s'il faut avouer que le coup de com est quand même génial. Paulin, toi, t'avais des espoirs pour cette annonce?
Comme tout le monde. Après, c'est vrai que je me suis dit, s'il annonce sa dernière saison, c'est un peu du grand LeBron James, hein, du King James, quoi, comme il sait le faire. Après, je trouve que c'est plutôt bien joué de sa part, parce que tout le monde s'attendait et lui le savait en faisant ça avec la marque. En fait, c'est un très bon coup de com, il faut le saluer. Ouais. Et par contre, c'est vrai que je me donne une petite pensée à tous les gens qui ont acheté des places, du coup, pour le dernier match de la saison des Lakers. Le prix de la place était à $80. Il a fait x7 avec donc les revendeurs, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont potentiellement mis toutes leurs économies pour s'acheter un billet pour le dernier match de la saison des Lakers, alors que ce sera peut-être pas le dernier de LeBron James. Non. Et ça se trouve, les Lakers se seront assurés d'être en playoff et le gars sera reposé sur le banc. Donc Bon voilà, ça peut être la plus grosse déception de l'histoire pour certains fans des Lakers. En tout cas, bon bah voilà, un simple coup de com, rien à signaler pour l'instant.
Voilà, dommage. On s'était quand même passé sur tous les médias de sport. Ça pouvait être énorme. Finalement non. Évidemment, il ne s'est pas passé que ça sur la planète basket, même si ça va être assez rapide parce qu'on n'a pas eu non plus grand chose à se mettre sous la dent, mais je pense qu'on va surtout retenir le retour sur les parquets de Victor Wembanyama. On l'a vu s'entraîner tout l'été avec des légendes et des moines Shaolin, et ben ça fonctionne plutôt pas mal sur les premiers matchs qu'on a pu voir. L'image marquante, je pense, c'est tu l'as vu aussi, elle a passé partout, le bump qui met
sur Luke Kornet.
Voilà, pendant ce match d'entraînement, s'il commence à mettre des gros coups de physique comme ça sur les pivots adverses. Ouais. C'est une image digne de Shaquille O'Neal après le dunk avec la pose, tout ça. C'est plutôt impressionnant.
C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Si en plus de son aisance, balle en main pour un gars qui fait 2 mètres 24, 25, 26, 27, on sait plus avec lui parce qu'il prend centimètres en centimètres. Mais non, c'est assez bluffant et je pense que de toute façon, là, la saison qu'il va nous faire, ça va encore être une vraie dinguerie. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. En fait, ouais. Le gars va potentiellement être candidat MVP. Je sais pas où vont aller les Spurs et ça m'intéresse de voir ce qu'ils peuvent faire avec les rookies, avec De'Aaron Fox, avec Wemby. Rien que sur le match de préparation, il a joué quoi? Je sais pas, entre 10 et 15 minutes, il ouais, est pas loin du triple-double avec 9 points, 10 rebonds, 7 passes. Il passe la balle, il y a une très bonne connexion qui est en train de s'établir aussi avec Luke Kornet. Les gars, en même temps, ils se voient à 2m20 tous les deux du terrain. Panier, là, forcément, pour eux, là, je veux dire, ils font tous 2m ou 1m90, il y a 20 cm de plus. Donc t'inquiète que les passes, ils peuvent se les faire entre eux. Donc ouais, non, c'est très intéressant, on va dire, de voir ce que va proposer Wemby et puis avec les Spurs, en espérant que il y ait pas de pépin physique, parce qu'on sait que l'année dernière, bah courant en février, quand il y a eu sa blessure et sa thrombose, et bah du coup on est resté un peu sur notre faim. Donc là on espère qu'il y aura saison complète et potentiellement un candidat au titre du MVP. Enfin, je pense que c'est sûr maintenant, toutes les saisons d'OMB, il sera candidat au MVP.
Candidat MVP, candidat Deep Boy aussi, on l'a vu faire trois comptes dans ce match. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que il ne fait pas que contrer, il compte vraiment intelligemment, dans le sens où va la balle. Sur les trois comptes qu'il a mis, il n'y en a aucune qui a été perdue ensuite par les Spurs. Il y en a une, il la renvoie sur la planche, ça fait deux points ensuite en contre-attaque. Il y en a une qui gobe sur la planche littéralement. Et une troisième qui rate directement dans les mains de ses coéquipiers. Et ça, c'est quelque chose qui est pas trop... je trouve que les médias en parlent pas tellement. Mais c'est quelque chose de hyper important, je trouve, pour un joueur qui fait autant de contres, de contrer intelligemment et de jamais perdre de ballon sur ses contres. Et c'est quelque chose que j'ai rarement vu avant, c'est dire une fois de plus l'intelligence qu'a Wemby et qu'a sûrement le coaching, ce qu'ont pu lui apprendre ses coachs. Voilà, ça reste toujours très impressionnant de le voir évoluer, mais c'est pas le seul à avoir pris le chemin des parquets. Avoir repris, pardon, le chemin des parquets, ce qu'on a vu, on a pu voir tous nos petits joueurs français arriver fraîchement en NBA lors du Media Day et des premiers matchs de préparation sous leurs nouvelles couleurs. Et un autre qu'on a vu sous ces nouvelles couleurs, c'est Gershon Yabusele du côté des Knicks. Ça va te plaire, Paulin.
Oui, bien sûr.
Du côté d'Abu Dhabi, qui nous a sorti un sacré contre une fois de plus sur Devin Avdija, il me semble. Non, je crois pas. J'ai plus le joueur en tête.
Bah non, parce que c'était contre Philly, mais je pourrais pas te dire parce que j'ai pas regardé les matchs.
Et Martin.
Mais oui, peut-être. En tout cas, oui, c'est sûr que de voir le Yabou, là, le Dancing Bear faire ses preuves, moi, sous le maillot des Knicks, ça me fait extrêmement plaisir. De toute façon, j'ai hâte de voir cette saison. C'est vrai que la pré-saison, moi, je suis pas le plus grand fan, mais c'est normal. En fait, les joueurs ont besoin de ça, mais c'est pour ça que je porte pas une attention non plus hyper accrue sur les matchs de pré-saison. Là, bon, il y avait les Knicks qui jouaient contre Philly. Je regarde un petit peu les highlights rapidement et puis le box score. Et puis, je vois que Yabusele a l'air de bien s'intégrer à ce collectif. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le début de saison et le rôle qu'il va avoir sorti de banc aux côtés de 4 dans la raquette. Comment est-ce que va s'adapter le 5 majeur, je sais pas, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Diawara aussi a pu faire ses premières minutes, voilà, en pré-saison, donc très positif aussi. Il aura sûrement du temps de jeu, peut-être envoyé en G-League en fonction des opportunités, parce que le roster pour les Knicks, il va falloir aussi le mettre à jour et prendre les 12 joueurs qui vont former notre effectif, donc à voir, mais en tout cas hâte que cette saison de NBA démarre.
Voilà, faudra attendre le 22 octobre pour revoir un peu de NBA, des vrais matchs fin de la pré-saison. On tiendra un peu au courant de s'il se passe des choses tout simplement dans cette pré-saison. D'ici là, on verra ce qui se passe et on a évidemment hâte de revoir nos joueurs préférés sur les parquets le 22 octobre. On va enchaîner avec la liste des Bleus pour finir cette émission, parce que ouais, c'est la trêve internationale, on en parlait, pas de Ligue 1, pas de Ligue des Champions cette semaine et des matchs de qualification pour la Coupe du Monde pour l'équipe
équipes de France. Je vais rapidement faire la liste. Avec Didier Deschamps qui a sélectionné Ocage, Lucas Chevalier, Mac Maignan et Brice Samba. En défense, ce sera Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba et Dayo Upamecano. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Manu Koné, Michael Olise, Adrien Rabiot, Kefren Thuram. Et en attaque, c'est encore une fois là qu'on a quelques surprises avec Magnus Akliouche, Bradley Barcola, Kingsley Coman, Hugo Ekitike, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Il me semble qu'il y a une petite erreur dans ma liste parce que Flo Thauvin est sélectionné, non?
Oui, ouais, il remplace Coman, je crois.
Ouais, c'est ça,
Barcola.
Barcola, qui est remplacé donc par par Florian Thauvin, qui revient en bleu, le champion du monde 2018. Qu'est-ce qu'on en pense un peu autour de la table, peut-être toi, Robin, de cette liste des Bleus?
Toujours forcément quelques surprises, notamment dues aux nombreuses blessures, l'hécatombe de blessures depuis le début de saison. Mais ça fait plaisir de voir de nouveaux noms, de voir aussi le retour de Florian Thauvin, voir si Didier Deschamps va lui donner quelques minutes. Ça peut être intéressant de voir ça. Après, ça fait plaisir aussi de revoir le retour de Lucas Hernandez, aussi un ancien taulier de l'équipe de France, qui fait un très bon début de saison depuis son retour de blessure, où il a eu un petit peu de mal au début, mais là, il revient très bien ce début de saison avec le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Surtout Florian Thauvin, retour en équipe de France, ça fait plaisir pour un ancien.
Ouais, et puis aussi on a Jean-Philippe Mateta. Connaît sa première sélection. Et là, je me tourne vers toi, Paulin, spécialiste de la Première Ligue. Est-ce que c'est tout à fait mérité pour Jean-Philippe Mateta? Est-ce que tu t'attends à une grosse performance de sa part?
Faut voir le temps de jeu qui lui sera accordé, mais oui, c'est sûr que Mateta, c'est un profil qui est intéressant, et puis avec Crystal Palace la saison dernière, elle est vraiment réussie pour lui. Le début de saison aussi, après il marque un petit peu moins de buts sur ce début de saison que ce qu'on a pu voir la saison dernière, puis notamment là ce week-end il rate deux grosses occasions, mais après je pense que c'est un profil intéressant, et pour lui aussi ça vient aussi récompenser les efforts qu'il fournit en club, et puis en tout cas pour les supporters et pour Crystal Palace, il est vraiment mis en avant et il est vraiment très apprécié de la part du public anglais.
Voilà, place amplement méritée. Mathéo, toi, qu'est-ce que tu retiens un peu de cette liste de Didier Deschamps pour cette trêve?
Eh bien, forcément, je vais parler de, encore une fois, la non-sélection de Corentin Tolisso, qui pour moi est un mystère. Non, j'arrête de vous embêter avec ça, mais c'est une liste assez intéressante quand même. Je trouve, il y a quelques choix que je peux ne pas comprendre, notamment là, je regarde la liste, on n'a pas de Tchouaméni. Alors à moins qu'il soit blessé et que je sois pas au courant, ça reste quand même un des piliers de ce début de saison du côté de Madrid. Donc ça, c'est des questionnements, mais on est sur des détails. Dans tous les cas, on joue l'Azerbaïdjan et puis l'Islande, donc on demande pas un 11 non plus des grands jours, on va dire.
Je pense que ça devrait le faire pour l'équipe de France.
J'aime bien quand même certains retours. Nkunku, c'est quand même un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a pas eu du tout la confiance de son coach à Chelsea, mais pour moi qui a des qualités indéniables. Et puis c'est un attaquant vachement atypique aussi, hein, un petit peu comme Mateta. C'est pas du tout les mêmes profils, mais ça reste des attaquants atypiques. Mateta, j'aime bien l'idée, honnêtement. En plus, pour ce que ça représente quand même, ce côté joueur qui travaille et qui arrive enfin à avoir une place en équipe de France sans... à 28 ans, sans être un jeune prospect, ou voilà, c'est vraiment un joueur qui a beaucoup bossé. En plus, nous on l'a connu à Lyon, alors j'en garde pas forcément des souvenirs énormes, honnêtement, mais ça reste quand même quelqu'un qui est revenu et qui a fait de très belles choses là aujourd'hui à Crystal Palace. Donc c'est intéressant, ça permet d'explorer aussi de nouveaux horizons. Et puis si on doit parler aussi de Thauvin, on en a quand même un peu parlé, mais je trouve que c'est vraiment quand même un retour assez symptomatique de Didier Deschamps, sa communication, on va dire, basée quand même sur le groupe, etc. Ouais. Parce que Thauvin, il fait un très bon début de saison, effectivement. Mais c'est juste en fait son exposition aujourd'hui. Il n'y a pas un changement drastique de son niveau de jeu par rapport à l'année dernière. C'est pas évident non plus. Donc derrière. Content de le voir quand même, ça reste un joueur qui performe avec une mentalité aujourd'hui qui reste assez bonne pour le groupe, mais c'est pas un joueur qui a le niveau équipe de France aujourd'hui, Florian Thauvin.
Ouais, bon, on va voir si il aura quand même quelques minutes. Toi, Paul, pareil, est-ce qu'on a peut-être un peu tout dit, ou est-ce que tu retiens des choses en plus dans cette liste?
Bon, les gars, vous avez tout dit. Honnêtement, je peux rien dire de plus. Enfin, je suis très content pour Mateta parce que ça fait quand même deux, trois saisons où à Crystal Palace il performe beaucoup et il la mérite. Après, Thauvin, le retour, c'est bien pour lui, mais comme disait Mathéo, enfin, le problème c'est que peut-être il est de retour, peut-être Deschamps fait un peu du recyclage avec toutes les blessures. Mais honnêtement, est-ce que ça va durer dans le temps? Je pense pas. C'est juste un retour pour pallier les blessures actuelles. C'est un peu dommage pour lui, mais bon, enfin, il est obligé que les nouveaux joueurs qui performent beaucoup plus que lui, et même si bon, il est dans un Lens qui joue très très bien en ce moment, je pense pas qu'il pourra avoir un niveau assez élevé pour pouvoir prétendre une place à la Coupe du Monde.
Bon, on verra ça en tout cas contre l'Azerbaïdjan, c'est vendredi le 10 octobre. Puis contre l'Islande lundi, tu nous feras la composition, Paul, évidemment.
Bien sûr.
Tu iras pas sur OneFootball cette fois.
Non, je changerai un peu.
On arrive à la fin de ces émissions, à la fin de cette émission. Un petit dernier mot sur Cholet, qui est un peu en, qui galère un peu contre Badalone. Il y a 7 minutes et 44 secondes à jouer dans le deuxième quart-temps. Et ils perdent 37 à 19. Il y a eu 29 à 17 dans le premier quart-temps. Ça va être compliqué de revenir pour cette première journée de Ligue des Champions. Et puis, on va aussi teaser un peu la semaine prochaine, où Mathéo, peut-être que tu peux en parler.
Ouais, on reçoit du coup Nicolas Berger, qui est le coach de l'équipe de Saint-Barthélemy d'Anjou, de basket, qui réalise donc un début de saison assez intéressant quand même en National 3. C'est la première fois que eux sont en National 3 de l'histoire du club. Donc c'est quand même une saison assez historique. Et pour l'instant, donc ce week-end, succès face à Chartres, contre l'équipe B, donc 65 à 75. 3 victoires en 4 matchs, dont une défaite face à Meudon, qui est quand même peut-être le gros cador de ce groupe. Donc c'est vraiment une équipe intéressante de ce début de saison sur le basket local, et on est très content de les accueillir forcément avec Nicolas Berger, qui en plus est une personne très sympathique.
Voilà, on verra ça la semaine prochaine. En plus, il y a un petit lien pour les auditeurs les plus assidus, parce que Mathéo Valton, qui évoluait à l'EAB l'année dernière, qu'on avait reçu dans les studios de Génération Sport, évolue maintenant du côté de Saint-Bar avec d'autres jeunes qui sont venus spécialement pour ce projet National 3 qui s'est créé grâce à la montée du club la saison dernière. On va se quitter déjà à 20h57. On va vous souhaiter une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine sur le 101.5 FM de Radio G.